France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps, en Grèce, les humains étaient cernés, entourés par les dieux. Ces dieux intervenaient dans leur vie de tous les jours, mais les humains ne les voyaient pas, ne les rencontraient pas. Pour imaginer les dieux, ils avaient sous les yeux des milliers d'images peintes, tissées et sculptées, dans les temples, les rues, dans leurs maisons, sur les vases et les coupes de leurs banquets. Ils entendaient 1000 récits qui disaient qu'Athéna avait des yeux de lumière, que les bras de Héra étaient blancs et qu'elle avait de beaux yeux de vache. On savait que les sourcils de Zeus étaient sombres. Mais jamais les humains ne pouvaient le vérifier par eux-mêmes. Les peintres, les poètes, qui réalisaient toutes ces images, ces descriptions, n'avaient jamais vu un dieu ou une déesse. Les dieux étaient présents, mais insaisissables. On ne savait pas du tout à quoi ils ressemblaient vraiment. On ne savait pas si ces images, si ces récits étaient vrais.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
Mais ce n'était pas si grave. On savait que les dieux agissaient dans le monde, que c'était eux qui décidaient de ce qui doit arriver. Il fallait seulement être prudent avec eux. Il fallait anticiper leurs réactions et, si possible, les influencer par des prières, par des sacrifices qui pouvaient être immenses, somptueux et coûter très cher. Imaginez des cérémonies où on ne sacrifiait pas un bœuf ou deux, mais 100. Mais ce qu'ils étaient vraiment, comment ils étaient, à quoi ils ressemblaient, on savait. Qu'on ne le saurait jamais. Et ça ne gênait pas vraiment. Athéna, la grande déesse d'Athènes, la protectrice, celle qui étend sa grande main sur la ville pour lui éviter les catastrophes, on la connaissait bien. On voyait ses statues, on se racontait ses histoires et on lui offrait des fêtes. On savait qu'elle était une grande guerrière victorieuse, avec son casque, sa lance, avec cette égide terrifiante que Zeus, son père, lui prêtait parfois. Une cape mouvante en peau de chèvre, avec une tête de gorgone dessus, qu'elle agitait pour faire fuir ses ennemis. On savait aussi qu'elle était tisserande et couturière, une artisane fabuleuse, créatrice de grande beauté. Athéna pouvait porter des vêtements de grand luxe. On savait qu'elle ne répugnait pas aux travaux de construction, qu'elle était charpentière, qu'elle avait enseigné aux mortels comment construire des chars, des bateaux. Et on la remerciait d'avoir donné l'olivier, d'avoir appris aux Athéniens comment le cultiver et s'en nourrir. Athéna était tout cela. L'important était de le savoir et de la respecter, de l'honorer dans chacun de ses aspects, dans toutes ses manifestations. Chacune des apparences qu'on lui prêtait, tous les objets qu'on lui associait, les tissus, les casques, la lance, le bouclier, correspondaient à ses activités de déesse, à ses fonctions. Ce qu'il pouvait y avoir derrière ces apparences multiples, on ne se le demandait pas trop. François Lissarague, qui était un fabuleux interprète des images, disait que les armes des guerriers ou d'Athéna étaient comme une seconde peau qui amplifiait le corps, qui donnait une image agrandie, glorifiante de ceux qui les portaient. Elles ne servaient pas seulement à impressionner, à combattre efficacement. Les armes transformaient le guerrier en montrant qui il était vraiment, un être de force et de gloire. Y avait-il sous l'armure, sous les ornements de la déesse, une première peau? Un corps vrai, naturel et non artificiel d'Athéna, peut-être. Mais on ne le savait pas. Aucun mortel n'avait vu le corps de la déesse. Sauf un, Tirésias de Thèbes, le devin. Cette vision, il l'a payée très cher. Il est devenu aveugle. Il aurait mieux fait de ne pas voir. Encore que. L'histoire de cette rencontre fatidique entre Athéna et Tirésias est racontée par un poète merveilleux, Callimaque de Cyrène. Il nous a déjà accompagnés pour la jeune Artémis. Il a vécu au 3e siècle avant Jésus-Christ, dans la ville d'Alexandrie, en Égypte. Grande ville en plein mouvement qui brassait des cultures, des populations, des religions différentes. Une ville-monde. Ce poète, Callimaque, connaissait énormément de poèmes, de traditions légendaires. Il était chargé d'établir le catalogue de la bibliothèque d'Alexandrie. Il était aussi poète et transformait sa culture savante en poésie fine, drôle et légère, et profonde. Il y a du Heinrich Heine, de l'Apollinaire ou du Henri Michaux dans sa poésie. ce Callimaque a écrit un poème sur Athéna. Il s'intitule « Hymne pour le bain de Pallas ». Pallas est l'un des noms que l'on donnait à Athéna. Ce poème nous en dit long sur ce qu'est la déesse. Le poète, dans ce texte, fait comme s'il s'adressait aux jeunes filles qui, dans la ville grecque d'Argos, étaient chargées de laver une statue d'Athéna, de lui faire prendre un bain rituel. Cette cérémonie avait effectivement lieu. On disait que cette statue, de petite taille, était la statue légendaire qui, autrefois, trônait dans le temple de la déesse à Troie. Un oracle avait dit que Troie ne pourrait pas être prise par les Grecs tant que cette statue de la déesse resterait dans ce temple. Deux grands héros grecs, Ulysse et Diomède, sont donc allés la voler lors d'une expédition nocturne. Diomède, un des rares survivants grecs de la guerre de Troie, était le roi de la ville d'Argos. Cette statue très célèbre a été accueillie et honorée dans sa ville. On l'appelait le Palladium. Callimaque, le poète, s'amuse. Il évoque d'abord ce bain rituel de la statue, bain d'une déesse en bois, solennelle et évidemment habillée. Puis, il racontera un autre bain, celui d'une Athéna réelle et dénudée. Bain fatal pour le jeune Tirésias. D'abord, il demande aux jeunes filles chargées du bain de se dépêcher. Athéna, dit-il, va arriver avec ses chevaux et son char. C'est l'occasion de rappeler la grande victoire mythique d'Athéna contre les monstres, qu'étaient les géants.
Vous, verseuse d'eau pour le bain de Pallas Athéna, toutes, venez. J'entends hennir à l'instant les juments sacrés. La déesse est tout près d'arriver. Faites vite, fille blonde, vite, fille de Pélasgos. Jamais Athéna n'a lavé ses bras puissants avant que du flanc de ses chevaux, elle n'ait chassé la poussière, même ce jour où, éclaboussée d'une boue sanglante, elle était revenue, chargée des armes prises aux géants criminels nés de la terre. Tout de suite, en tout premier, elle libéra de leurs joues le col des chevaux. Dans les flots de l'océan, elle fit s'en aller sueur et saleté. Elle purifia de tous leurs grumeaux d'écume les bouches rongeuses de brides. « Oh, venez, fille d'Achaïe, j'entends les moyeux des roues sifflés comme des flûtes. »
Puis, le poète dit aux jeunes filles comment elles doivent accueillir la déesse pour son bain. Athéna n'est pas coquette. Elle déteste les parfums et les miroirs.
Pas de parfum, verseuse d'eau, pas de flacon d'albâtre pour Pallas. Car Athéna n'aime pas les onguents mélangés. N'apportez pas de miroir. Son visage est toujours beau.
Là, il faut apporter un correctif. Callimaque se trompe ou fait semblant de se tromper. Athéna n'a pas toujours fui les miroirs. Une légende dit qu'Athéna inventa l'art de la flûte quand elle entendit les gorgones, ces filles avec des cheveux de serpent, se lamenter après la mort de leur sœur, celle qui s'appelait Méduse. La flûte, inventée par Athéna, cherche à reproduire les voix de ces gorgones et de leurs serpents. Mais, dit une tradition irrespectueuse, Athéna cessa de jouer de la flûte quand elle se vit dans un miroir, la flûte à la bouche. Ses joues étaient toutes gonflées, difformes. Elle se trouva horrible. Elle ressemblait à l'affreuse gorgone. Elle jeta l'instrument et n'en joua plus jamais.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
You came into my life. I thought that I was dreaming because you showed me in your dance for life. And your way to breathe. Enveloppez-moi, à dentellement, j'allais dans tes besoins. Ou chanter en d'autres mélodies, ben moi. Les opposés, s'il y a aussi moins. Ou reconnaître, non, ben moi. En partie, puis soit caché encore. You, my angel in disguise. I saw your wings one night. I knew you. Hot love in your hands. Hot love in your words. Oh, dis-moi où aimer-moi avant même où te connaître moi. Si nous t'es déjà joint dans d'autres chemins, calmez-moi, enveloppez-moi là dans le chaland tes besoins. Ou chantez en d'autres mélodies pour moi. Beautiful, beautiful, beautiful. I don't wanna let you go until I tell you that I love you. Beautiful, beautiful, beautiful. You're my body and soul. So perfectly designed for you. Pour soleil qu'a clairé, aux yeux qu'a chanté, moi ça vaut. Connaître qu'a liberté, savent ses vérités. Close to you, around you, my heart is singing a new song. Words and melody coming from you. Comfort you, holding you, this is my own fantasy. Just wanna breathe the air surrounding you. Beautiful, beautiful, beautiful. I don't wanna let you go until I tell you. Beautiful, beautiful, beautiful. You're my body and soul. So perfectly designed for you. Oh, I like the way that you came my way. I like your way.
Pierre Judet de la Combe parle d'Athéna.
La déesse puissante et fragile.
Revenons à Callimaque et à son poème. Même le fameux jour du jugement de Paris, où Athéna était en compétition pour un prix de beauté avec Héra et Aphrodite, elle n'a pas eu recours à un miroir, dit Callimaque, contrairement à Aphrodite.
Même le jour où Paris, le Phrygien, sur le mont Ida, trancha la querelle, la grande déesse Athéna ne regarda ni le métal poli, ni l'eau diaphane du Simoïs tourbillonnant.
Elle arriva devant Paris en sportive. Avant le jugement, Athéna commença sa journée par un long footing. Puis elle se passa de l'huile sur le corps. C'est ainsi qu'elle prenait des couleurs et était belle.
Ce jour-là, Athéna courut deux fois la longueur de 60 stades. Puis, experte, elle frotta son corps d'onguent pur, venu de l'arbre qui est le sien, l'olivier. Et une rougeur courut sur elle, comme au matin se colore la rose ou les grains de la grenade.
Mais on connaît le résultat. Aphrodite a gagné le prix de beauté. Oui, c'est vrai, mais finalement Paris a perdu. Sa ville, Troie, a été ravagée après une guerre de 10 ans où Athéna n'a cessé d'aider les héros grecs. Elle les a menés à la victoire en leur donnant l'idée du cheval de Troie. Athéna s'est vengée. Puis, sans transition, le poète Callimaque évoque un autre bain. Non pas une cérémonie publique où on lave une statue, mais un bain discret, secret, que la déesse Athéna a pris autrefois avec une amie, une nymphe. Cette nymphe s'appelait Cariclo, c'est-à-dire femme célèbre pour sa beauté, pour sa grâce. Les deux femmes étaient très proches. Elles partageaient tout dans une ambiance de fête, de musique. Mais le malheur devait arriver.
Athéna, autrefois dans le pays de Thèbes, aimait une nymphe, beaucoup, plus que toutes les autres compagnes. C'était Cariclo, la mère de Tirésias. Jamais elle n'était loin. Souvent, la déesse la faisait monter sur son char. Les tendres paroles entre nymphes, les invitations à la danse, n'apportaient pas de plaisir si Cariclo ne les dirigeait pas. Mais tant de larmes l'attendaient encore, même elle, la compagne adorée d'Athéna.
Le malheur est arrivé avec Tirésias, le fils de la nymphe. Il est innocent, tout jeune encore, avec à peine de barbe au menton. Athéna et Chariclo se baignent dans l'eau d'une fontaine où souvent viennent danser les muses. Tirésias les surprend. La déesse devient furieuse et le châtie immédiatement.
Un jour, elles avaient détaché les agrafes de leurs robes près des belles eaux de la fontaine du cheval, sur la montagne Hélicone. Elles se baignaient. C'était midi. Un calme immense tenait la montagne. Seul Tirésias, avec ses chiens, le menton encore à peine assombri, parcourait le lieu sacré. Une soif indicible le mena à l'eau de la source. Misérable! Il vit ce qu'il n'avait pas le droit de voir. En rage contre lui, Athéna lui parla.
« Tu n'emporteras pas tes yeux avec toi. Qui, Tirésias? Quel démon t'a mis sur ce chemin de malheur ?»
Elle dit cela, et la nuit emporta les yeux de l'enfant.
La mère de Tirésias, la nymphe, hurle, protège, pleure. Athéna a pitié, mais elle est inflexible. Elle dit qu'une ancienne loi des dieux l'oblige à punir Tirésias. Personne, aucun mortel n'a le droit de voir une divinité, si cette divinité n'est pas d'accord.
Femme divine, rejette tout ce que tu as dit par colère. Ce n'est pas moi qui ai fait ton fils aveugle. Athéna n'éprouve aucune douceur à voler les yeux d'un enfant. Mais c'est ce que disent les lois de Cronos. Qui contemple un immortel, si ce dieu ne l'a pas voulu lui-même, devra payer d'un grand prix ce qu'il a vu.
Ce qu'a vu Tirésias, c'est quelque chose de très particulier, me semble-t-il. C'est la nécessité où, à un certain moment, cette déesse vierge mais pubère se trouve obligée de se baigner.
Françoise Héritier.
Elle se trouve obligée de se baigner parce que, et là nous nous trouvons dans une situation qui est une situation qui ne peut pas être dite, comme elle ne peut pas être vue, sauf par les nymphes et par les femmes, elle est dans une situation féminine particulière qui est celle de la menstruation. Et ce que voit Tirésias, c'est vraiment de l'impensable, parce qu'il voit la Vierge qui n'utilisera pas ses humeurs du corps dans une situation qui est de l'ordre de l'impensable.
Finalement, Athéna dit qu'en compensation du mal subi par Tirésias, elle va lui accorder de grands pouvoirs. Tirésias restera aveugle toute sa vie, mais il sera un grand devin qui sera honoré par tous. Il dévoilera ce que personne ne voit dans le passé, dans le présent, dans l'avenir. Il verra l'invisible. Même mort, Tirésias gardera dans le royaume des morts tous ses esprits.
Par amour de toi, je lui réserve beaucoup de privilèges. Je ferai de lui un devin qu'on chantera à l'avenir. Il sera nettement meilleur que tous les autres. Il connaîtra les oiseaux, lequel est favorable, lequel a un vol infructueux, et ceux dont les ailes ne disent pas le bien. Il donnera une foule d'oracles aux gens de Béotie et à Cadmos, et ensuite au magnifique Labdacide. Je lui donnerai un grand bâton qui conduira ses pieds où il faut. Je lui donnerai de finir sa vie après un long temps. Et lui seul, après sa mort, aura sa raison quand il fréquentera les ombres. Le grand chef du peuple des enfers l'honorera.
Nous le rencontrerons encore quand nous raconterons les histoires d'Œdipe et d'Antigone, qui étaient membres de la famille maudite des Labdacides. Ou quand nous suivrons les errances d'Ulysse, c'est Tirésias, mort, mais à l'esprit encore vif, qui dans les enfers prophétisera à Ulysse les étapes de son chemin de retour, son ultime voyage et sa mort. Mais pourquoi cette colère d'Athéna? Pourquoi rendre aveugle ce jeune homme bien innocent? Est-ce seulement qu'elle a appliqué une vieille loi divine qui interdit aux mortels de voir les dieux immortels? Sans doute. Mais pourquoi choisir précisément ce châtiment-là, enlever la vue? Parce qu'il a vu le corps d'Athéna,
sa poitrine et ses flancs.
Tirésias n'a jamais plus rien vu. En quoi était-ce si grave? Là, beaucoup d'interprètes se sont creusés la tête. Qu'a donc vu Tirésias? C'est une vraie question. Parfois, on a dit que Tirésias avait vu qu'Athéna avait un beau corps d'athlète, bien musclé, un corps androgyne, pas féminin. Et Athéna aurait honte de ce corps. Mais pourquoi, mon Dieu? Le poème de Callimaque ne dit rien de ce genre. Il dit plutôt l'inverse. Athéna, avec les nymphes, participe à des plaisirs simples, gracieux. Les douces et tendres conversations, la danse, le bain. Elle fait ce que font d'autres déesses comme la belle Artémis quand elles sont seules avec leurs compagnes Une atmosphère de plaisir, de bonheur règne autour d'Athéna. On pourrait même dire qu'Aphrodite n'est pas loin. En fait, ce que Tirésias a vu est qu'Athéna, sans ses armes, sans ses vêtements prodigieux et solennels, est simplement une déesse, comme sont les déesses, au corps magnifique, qui sait rire, danser ou ne rien faire, qui sait être simplement très belle. Une Athéna qui n'a rien de particulier. Rien à voir avec l'Athéna des cultes, des statues. Cette Athéna officielle, l'Athéna des images, est figée, rigide et sévère dans sa splendeur. On la reconnaît au premier regard par tous les accessoires guerriers ou pacifiques qu'elle porte sur elle. Cette Athéna en image, immobile, brille. Elle impressionne par des accoutrements qui évoquent ses fonctions, sa gloire, sa puissance irrésistible. On ne peut la confondre avec aucune autre divinité. L'histoire, racontée par le poète Callimaque, rappelle avec humour que l'Athéna réelle, celle qui est derrière toutes ces images, l'Athéna dénudée et insouciante, qui se laisse prendre par la chaleur et l'inaction propre à l'heure de midi, n'a finalement rien de bouleversant, d'extraordinaire. Elle est comme les autres. Dans le simple appareil de sa nudité et de sa beauté, Athéna ne peut faire peur à personne. Elle ne peut pas terroriser ses ennemis, comme elle sait si bien le faire avec ses armes. Réduite à elle-même, sans tout son attirail habituel, Athéna n'est plus Athéna. On comprend qu'une déesse n'ait pas trop envie qu'un simple mortel découvre cela. Ça ne sert donc à rien, nous dit le poète Callimaque, de se demander ce qu'il y a derrière les apparences de la déesse, derrière ces images conventionnelles. Il y a seulement une déesse normale qui prend son plaisir, comme tous les dieux quand ils sont entre eux, loin des mortels. Ne dit-on pas que les dieux sont bien heureux ? Le poème de Callimaque nous en dit aussi beaucoup plus sur Athéna. Il dit aussi qu'Athéna, c'est autre chose que ces images bien connues, que cette très vieille et vénérable statue de bois que des jeunes filles sont censées laver dans les eaux d'une fontaine. L'Athéna qui se baigne au soleil, surprise par Tirésias, va transformer le voyeur involontaire que le fils de son ami en voyant, en devin, aveugle. Tirésias verra par son regard intérieur le cours de l'histoire, les événements qui vont se succéder, génération après génération. Même mort, il continuera. Tirésias passera tout son temps à voir, à prédire les actions humaines et divines. C'est alors, je crois, un autre aspect d'Athéna qui surgit. Une Athéna vivante, non pas figée. Une Athéna qui agit, qui fait le monde, qui participe à la grande marche de l'histoire. Une Athéna dont Tirésias pourra voir à l'avance les actions dans ce monde. Cette Athéna qui agit n'est pas une image, pas une statue. Elle n'est pas non plus l'image aveuglante d'une belle femme au bain. Elle est une puissance qui intervient jour après jour dans le cours des choses. Une puissance souvent victorieuse, qui ne se laisse pas facilement domestiquer. Mais cette Athéna agissante ne sera pas toujours victorieuse, comme voudraient le faire croire les statues, les images qui la montrent triomphante. En agissant, en prenant des risques, en s'opposant aux humains et souvent aux autres dieux et parfois à son père Zeus, cette Athéna vivante sera forte, habile, puissante. Elle emportera plein de victoires, mais elle sera aussi soumise aux surprises, aux déceptions. Elle n'aura pas la maîtrise du temps. Elle fera, comme nous les humains, l'expérience de l'histoire, de tout ce qu'on ne peut pas prévoir. Avec toute sa force divine, cette Athéna se révélera en fait très humaine, avec ses sentiments, ses colères, ses jalousies, et aussi ses désillusions. C'est peut-être là ce qui, à l'époque, fascinait chez ces dieux. Plus ils intervenaient dans les histoires humaines, plus ils essayaient d'exercer leur puissance divine, plus ils se montraient semblables aux humains, capables d'échouer. Il arrive à des dieux et à des déesses, même à Athéna, de perdre.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Oh,
Pierre Judet de la Combe parle d'Athéna.
La déesse guerrière confrontée à l'histoire.
Les Grecs avaient trouvé un moyen pour explorer, pour faire entendre cette relation difficile des dieux et des déesses avec l'histoire, avec le temps qui passe, avec ses catastrophes, ses ruptures, ses retournements et ses surprises. Ce moyen était la poésie, les grands poèmes qui racontent les aventures des divinités et des mortels. Ils offraient aux Grecs l'occasion de voir comment leurs dieux se débrouillent avec les changements et les imprévus propres à l'histoire, comment ils s'en tiraient ou non. Un poète notamment, lui-même aveugle comme Tirésias, s'était chargé de dérouler le fil déroutant, surprenant de ces histoires. C'était Homère. Comme Tirésias, il voyait l'invisible. Attention, on va changer de monde. On va rentrer dans l'action. On sera loin d'une scène de bain entre copines. Nous allons rejoindre la tourmente de la guerre de Troie, ses violences, ses surprises. On verra Athéna tantôt gagner, tantôt perdre. Une Athéna soumise au temps. L'apparition la plus spectaculaire d'Athéna a lieu au tout début de l'Iliade. C'est cette apparition qui décide de toute l'action du poème et au-delà de toute la guerre que les Grecs mènent contre les Troyens pour récupérer Hélène. Sans cette manifestation d'Athéna, la guerre s'arrêterait brusquement, sans résultat, pour rien. La guerre dure depuis 9 années. Une querelle éclate dans le camp grec, querelle majeure, entre le général en chef de l'armée, le roi Agamemnon, et Achille, guerrier jeune et magnifique, qui est le plus vaillant, le plus efficace de tous les héros venus de Grèce. Tous les succès militaires qu'ont pu obtenir les Grecs pendant ces années de guerre sont dus à Achille. Or, lors d'une assemblée qui réunissait toute l'armée, Agamemnon a violemment humilié le jeune Achille par abus de pouvoir. Achille est furieux contre Agamemnon. Il est prêt à le descendre, devant tout le monde, d'un bon coup d'épée. Il commence à dégainer son arme. Cette querelle est une catastrophe pour Athéna. La déesse tient absolument à ce que les Grecs gagnent cette guerre. Sa haine contre Troie est immense, radicale. Mais si Achille tue Agamemnon, le chef suprême de l'armée grecque, tout est fichu. Les 9 années de guerre, de souffrance, de frustration n'auront servi à rien. Il faut que les deux s'entendent à tout prix, sinon Troie ne sera jamais prise. Pourquoi Athéna a-t-elle tant de haine contre Troie ? Il s'agit d'une simple histoire de jalousie. Si Paris, fils de Priam, roi de Troie, a enlevé Hélène et vit avec elle à Troie, c'est parce que Aphrodite a gagné le concours de beauté qui mettait en compétition les 3 déesses, Athéna, Aphrodite et Héra. Le concours était jugé par Paris. Athéna et Héra ont perdu. L'argument qui a fait gagner Aphrodite était que si Paris, un bel homme encore tendre, la désignait comme déesse la plus belle, plutôt que Héra ou Athéna, il pourrait enlever Hélène en Grèce et l'épouser. Athéna et Héra, ces déesses si puissantes, sont alors prises par des sentiments très humains. Elles sont devenues folles de rage contre Paris et contre Troie, sa ville. Comme nous les mortels, ces grandes déesses peuvent être bêtement jalouses. Vaincues, humiliées, Athéna, comme Héra, ne souhaite qu'une chose, la destruction totale de Troie, la ville de Paris. Athéna descend du ciel juste à temps pour arrêter Achille, qui commence à marcher contre Agamemnon et à sortir son épée. L'intervention de la déesse est brutale, menaçante. Il faut faire vite. Elle prend Achille par derrière, le tire par les cheveux. Il se fige, étonné, puis il se retourne et voit tout de suite que c'est elle, Athéna, qui l'a arrêté. Les autres Grecs ne voient strictement rien. Seul Achille peut la voir.
Elle vint derrière lui et saisit les cheveux blonds d'Achille, fils de Pélée. Elle se manifestait à lui seul. Aucun des autres ne la voyait. Achille fut stupéfait. Il se retourna et reconnut aussitôt Pallas Athéna.
Achille n'a aucun mal à reconnaître la déesse. Homère ne nous dit rien sur l'apparence qu'elle a prise. Pour lui, ce n'est pas la question. L'important est qu'Athéna fasse peur à Achille. Homère ne parle que des yeux de la déesse. D'habitude, ce sont des yeux de lumière, comme ceux de la chouette. Là, ils sont effrayants.
Les yeux de la déesse prirent une apparence terrifiante.
Mais Achille n'a pas peur. Il commence même par se moquer de la déesse qui le gêne dans son action contre Agamemnon.
Achille lui parla, lui adressant des mots ailés.
Pourquoi viens-tu encore, enfant de Zeus qui tient l'égide? Est-ce pour contempler la violence d'Agamemnon, fils d'Atrée? Mais je vais tout te dire, et cela, je pense, s'accomplira. À cause de ses arrogances, vite, il lui faudra perdre le souffle.
Athéna, évidemment, ne se laisse pas impressionner. Elle raisonne Achille en lui disant qu'il a raison d'être en colère et qu'il obtiendra réparation. Mais surtout, il doit s'abstenir de toute violence. Pour elle, pour Héra, Achille et Agamemnon sont aussi importants l'un que l'autre.
Athéna, aux yeux de lumière, parla à son tour.
Pour arrêter ta fureur, si tu m'obéis, je suis venue du ciel. Héra m'envoie, la déesse au bras blanc, car son cœur vous aime également et a de vous même souci. Cesse ta querelle, que ta main ne tire pas l'épée, mais injurie avec des mots ce qu'il en sera de lui. Toutes tes injures, je le dis, auront leur accomplissement.
Athéna lui promet qu'Agamemnon va se repentir et lui offrir un immense dédommagement. Achille, cette fois, obéit. Il injurie lourdement Agamemnon.
Bouffi de vin, œil de chien et cœur de cerf, roi mangeur de peuple, qui règne sur des hommes de rien.
Les Grecs pensaient que le chien était lubrique et le cerf peureux. Mais toujours est-il qu'Achille ne tue pas Agamemnon. Il se contente, si on peut dire, de se retirer de la bataille. Il fait grève pendant de longues journées et laisse Agamemnon et les Grecs se débrouiller sans lui avec les Troyens. Pendant plusieurs jours, les Grecs iront de défaite en défaite. Mais au moins, Athéna a sauvé la guerre. Le chef de l'armée grecque, Agamemnon, est toujours là et Achille est en réserve. Mais c'était moins une, à un ou quelques cheveux près, c'est le cas de le dire. Tout aurait pu s'arrêter définitivement. Dans l'histoire, nous dit l'Iliade, rien n'est donné à l'avance, rien n'est gagné. Le temps de l'histoire des humains, des dieux, des villes, n'est pas linéaire, constant, il peut changer, bifurquer, à tout moment, aller d'un côté ou de l'autre, favoriser les uns ou les autres, tant les forces en présence, humaines et divines, sont différentes, en opposition, souvent irréconciliables. Il faut faire gaffe et être habile, comme ce jour-là l'a été Athéna. L'intervention d'Athéna sera encore une fois décisive à la fin de l'Iliade. Achille a cessé sa colère contre Agamemnon. Il a repris les armes parce que le prince Hector, le grand défenseur de Troie, a tué son ami Patrocle. Achille est résolu à le venger. Il se réconcilie avec Agamemnon et participe de nouveau à la guerre. On attend le grand duel final entre Achille et Hector. Ce duel devrait être décisif. Si Achille tue Hector, il acquiert une gloire immense, impérissable. Et en plus, il assure la victoire définitive des Grecs. Sans Hector, les Troyens ne peuvent plus se défendre. Sans lui, Troie doit tomber. Arrive le grand moment. Hector est à la peine, épuisé. Il a fait 3 fois le tour de sa ville en courant, poursuivi par un Achille rapide et infatigable. Mais Hector est décidé à se battre. Il arrête de courir et fait front. Zeus hésite. Que va-t-il faire d'Hector? Va-t-il le laisser se faire tuer par Achille? Il sait très bien que Hector doit mourir. C'est même lui, Zeus, qui l'a décidé. Mais il aime Hector. C'est un homme noble, pieux, qui lui a offert des milliers de sacrifices. Zeus est triste. Il demande aux dieux ce qu'il doit faire. Athéna s'insurge. Pour elle, il n'est pas question de laisser vivre Hector. Zeus peut décider ce qu'il veut. Mais s'il épargne Hector, il y aura une révolte chez les dieux.
Ô Père qui brille par la foudre, Dieu des noires nuées, qu'as-tu dit? Un homme, un mortel depuis longtemps voué à son destin, tu veux malgré cela le délivrer de la mort qui tourmente? Fais-le, mais nous, tous les autres dieux, nous ne t'approuvons pas.
Zeus, en bon père, sourit. Il est amusé par la réaction de sa fille. Il sait ce qu'il doit faire mourir Hector. Mais il voulait au moins que l'autre option, celle qui en fait serait la plus juste, celle pour laquelle il a de la tendresse, la survie d'Hector, soit évoquée. Souriant, il envoie sa fille faire son travail de destruction.
En réponse, Zeus, qui rassemble les nuages, lui dit
« Rassure-toi, mon enfant chéri. Là, je n'ai pas parlé en toute sincérité et je veux être doux. Agis en suivant ton esprit et ne renonce pas. »
Disant cela, il excitait Athéna, déjà impatiente. Elle descendit d'un saut des cimes de l'Olympe.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
The world is my own, find me in my zone. Listening to tunes on my phone, getting stoned. If your energy's right, we probably tired. If not, I'm happy alone. I don't come out of fear, keep my enemies near. Yeah, the devil's inside you, my dear. Connections I'm feeling, if not, keep it moving. If it ain't genuine, what we doing? I aim to your race, cause I value my space and the time that it takes to create. Can only try to be myself over nobody else as I battle these wars alone. Pay no attention to you, not the things that you do, cause you don't seem to want to relate. And all the time that I spend by myself brings me closer to earth, so I'm easy either way. Please don't try to hide what is rightfully mine from the skies. It's my own mind, I'll decide what resides and divides me inside. I said I got no fear, my only enemy's near. The demons inside you, let's make that real clear. We think that we know things, we got no idea. Only listen when it's easy to hear. I aim to your race, cause I value my space and the time that it takes to create. Can only try to be myself over nobody else as I battle these wars alone. Pay no attention to you, not the things that you do, cause you don't seem to want to relate. And all the time that I spend by myself brings me closer to earth, so I'm easy either way.
Pierre Judet de la Combe parle d'Athéna.
Divine et trop humaine.
Athéna va aider Achille à tuer Hector. Mais ce grand duel final est surprenant et même décevant. Athéna triche. D'abord, elle fait semblant de rassurer Hector. Elle lui apparaît sous la forme de son frère, le prince Déiphobe, et dit qu'elle va l'aider. Mais c'est une illusion, un piège. Achille tire le premier. Envoie sa lance contre Hector, il le rate. Mais sans se faire voir, Athéna avait récupéré sa lance et la donne à Achille. Hector tire à son tour. Il atteint Achille, mais sa lance rebondit sur le bouclier et se perd. Hector demande à son frère Déiphobe de lui fournir une autre lance. Mais personne ne lui répond. Il n'y a personne à côté de lui, un vide. Hector comprend qu'il a été trompé par la déesse. Il comprend qu'il est perdu.
Hector appela Déiphobe au bouclier blanc, à grands cris. Il lui demanda une grande lance, mais il n'était pas à côté. Hector comprit dans sa poitrine et dit
« Hélas, les dieux m'ont donc convoqué à la mort. Je me disais que Déiphobe, le héros, était à mon côté. Mais il est dans les murs. Athéna m'a trompé. Maintenant, la mort mauvaise est près de moi. Elle n'est plus à l'écart.
Achille peut tuer Hector avec sa lance. Ce combat qui doit assurer la gloire d'Achille est en fait peu glorieux. Il n'est pas égal. Il est truqué, manipulé. Cela correspond bien au mode opératoire d'Athéna. Elle vise la réussite, le succès à tout prix. Elle est rationnelle selon un sens très étroit de ce qu'on appelle la rationalité. Et rationnelle est donc désirable pour elle, ce qui mène au but qu'on s'est fixé. Quel qu'en soit le prix, la colère d'Athéna contre Troie fait que tous les moyens sont bons. Et, bonne artisane, habile et rusée, elle parvient à ses fins. Mais ce savoir-faire intelligent a ses limites. Athéna agit avec méthode. Mais dans l'histoire d'Achille et d'Hector, ce qui la pousse à agir est un sentiment, une colère acharnée contre Paris et Troie. Cette colère la submerge. Il peut alors arriver qu'Athéna soit complètement larguée, qu'elle soit dépassée par les événements, et notamment par ce qu'aura décidé son père Zeus. Sur les décisions fondamentales de Zeus, elle n'a pas prise. Elle doit se soumettre. C'est le cas à la toute fin de l'Iliade. Achille a enfin obtenu ce qu'il voulait. Il a vengé son ami Patrocle en tuant Hector. Mais sa tristesse, sa douleur, son chagrin d'avoir perdu son grand ami Patrocle ne se calme pas. Rien n'y fait. Tuer Hector, organiser des funérailles grandioses pour Patrocle, ça ne suffit pas, ça ne change rien. Achille est toujours ravagé en pleurs. Le deuil est sans fin. Il n'y a pas de consolation possible. Achille continue alors à se venger. Pendant 12 jours, il maltraite le cadavre d'Hector en l'attachant à son char et en le traînant autour du tombeau de son ami Patrocle. C'est peu digne, ignoble. Les dieux en ont assez. Ils veulent faire cesser cette sauvagerie. Mais Athéna n'est pas de leur avis. Elle s'insurge à l'idée que les dieux puissent même avoir l'idée de sauver le corps d'Hector. Hector, selon elle, ne mérite pas un tel égard. Cette fois, Zeus ne l'écoute pas. Il voit beaucoup plus loin que sa fille, plus grand. Il trouve le moyen d'apaiser la colère et la douleur d'Achille. Pour cela, il va créer un événement inouï, improbable. Il oblige le roi de Troie, Priam, et son grand ennemi Achille, qui lui a tué tant de ses fils, à se rencontrer la nuit, en secret, dans la tente d'Achille. Il a ordonné à Achille d'accueillir pacifiquement Priam chez lui, de bien le traiter avec amitié, et de lui rendre le corps de son fils Hector. Achille accueille Priam, lui rend le corps d'Hector, lui donne à manger. Les deux adversaires se contemplent et s'admirent.
Le vieil homme et Achille se voient, s'admirent, se comprennent. Priam, fils de Dardanos, était émerveillé par Achille, sa grandeur, sa qualité, car en face à face, il était semblable aux dieux. Et par Priam, fils de Dardanos, Achille était émerveillé à regarder son aspect noble, à entendre ses mots. Puis quand ils se furent charmés à se regarder l'un l'autre, Priam à l'apparence divine, le premier prit la parole.
« Donne-moi tout de suite un lit, enfant de Zeus, pour que maintenant, couchés tous les deux, nous soyons charmés par le doux sommeil, car jamais encore mes yeux ne se sont clos sous mes paupières, depuis que sous tes coups, mon fils a perdu son ardeur. À chaque instant je gémis, et couve des milliers d'angoisses, roulées dans l'enceinte de la cour parmi les excréments. Mais aujourd'hui je me suis nourri de pain, et le vin à l'œil de feu, je l'ai versé dans ma gorge. » Avant, je ne m'étais nourri de rien.
On est au-delà de la colère, de la haine. Priam et Achille sont en fait si proches. Les deux vivent la même guerre, la même souffrance. Ils ont perdu tous les deux l'être le plus cher. Ils s'entendent. C'est la fin de l'Iliade. Achille mourra peu de jours après, tué par la flèche de Paris. Priam sait que sa ville est condamnée. Il sait quelle mort l'attend. Mais au moins pour quelques instants, l'action, les colères, les stratégies, les questions de droit, de réussite, d'honneur sont suspendues. Elles n'ont pas cours, elles n'intéressent plus. Il n'y a pour quelques heures qu'un deuil partagé, une souffrance commune qui rapproche et apaise, parce que les deux hommes éprouvent la même douleur. Il n'y a que le simple fait d'être là, présent, face à un autre qui pour un peu de temps encore est en vie. il est encore possible de dire qu'on se respecte. Seul Zeus pouvait vouloir une telle scène. Il est le seul dieu à pouvoir comprendre que l'action, les buts qu'on se donne, les causes que l'on défend, armes à la main, même les plus légitimes, ce n'est pas tout. Zeus fait vraiment l'histoire. Il agit. Il décide souverainement qui doit gagner à la fin. Il fixe le destin. Mais il ne se contente pas d'imposer sa ligne et ses buts. Il sait que les êtres qu'il entraîne dans ses actions tumultueuses, complexes, sont fragiles. Il sait qu'il y a d'abord les existences, plus ou moins abîmées, quel que soit le camp auquel elles appartiennent. La peine de Priam vaut autant que celle d'Achille. Elles sont pareilles. Athéna, elle, est directe. Elle agit efficacement en fonction de ses buts. Mais elle n'a pas un regard qui porte sur l'ensemble de ce qui arrive aux dieux et aux humains. Il lui arrive alors de subir l'histoire, celle que son père Zeus a mise en mouvement. Elle ne connaît pas, ne dirige pas cette histoire. Elle est très puissante, comme dans les images rituelles par lesquelles on la vénère partout en Grèce, mais elle est aussi impuissante. C'est pour ça aussi que les Grecs tenaient à elle. La déception la plus grande que connaîtra Athéna viendra lors de la prise de Troie. Elle a tout fait pour que les Grecs, enfin après 10 ans, puissent entrer dans la ville et la saccager. Elle a constamment aidé les Grecs pendant leurs batailles. Artisane et charpentière, elle a inspiré l'idée du cheval de Troie, cette énorme construction de bois qui cachait les meilleurs des Grecs et que les Troyens ont imprudemment fait entrer dans leur ville. Elle a empêché Hélène de révéler aux Troyens la présence des Grecs dans ce cheval. Tout semblait donc marcher comme elle l'avait voulu, programmé, organisé. Mais elle sera déçue, et même révoltée, offensée. Les Grecs, qu'elle soutenait tant, sont enivrés par leur succès. Ils deviennent fous, ne respectent rien, même pas les temples des dieux. Le fils d'Achille, Néoptolème, égorge le vieux Priam sur l'autel de Zeus. Ajax, celui qu'on appelle le petit Ajax, l'autre, le grand, est déjà mort, entre dans le temple d'Athéna. Il voit Cassandre, la menace de son épée, et tente de la violer, ou la viole, selon les versions, alors que la jeune fille s'accroche à la statue de la déesse. On dit parfois qu'Athéna, qui jusque-là aimait bien cet Ajax, a essayé de l'arrêter en faisant bouger les yeux de sa statue, mais elle a échoué. Les Grecs, laissés à eux-mêmes dans l'ivresse de la victoire, peuvent être des brutes, des sanguinaires et des libidineux, comme les géants qu'Athéna a vaincus autrefois. Furieux d'avoir piétiné devant Troie pendant 10 ans, les vainqueurs multiplient les exactions, crimes de guerre, crimes contre l'humanité et contre les divinités. Athéna, qui pendant toute la guerre avait été du côté des Grecs, entre dans une immense colère contre ces mêmes Grecs. Elle demande à Poséidon, le dieu de la mer, de déchaîner contre eux de grandes tempêtes pendant leur voyage de retour. Beaucoup de Grecs disparaîtront. Euripide, le poète tragique, nous présente ce revirement brutal d'Athéna et sa discussion avec Poséidon au début de sa pièce « Les Troyennes ».
Mes ennemis d'alors, les Troyens, je veux les réjouir. Et l'armée des Grecs, je veux la frapper d'un retour amer.
Mais pourquoi sautes-tu ainsi d'un état d'esprit à l'autre? Tu exècres et tu aimes à l'excès, comme ça te vient.
Tu ne sais pas que moi et mon temple avons subi une violence?
Oui, je sais, quand Ajax s'est emparé de Cassandre par la force.
Et les Grecs ne firent rien. Ne dire rien contre lui.
Oui, mais c'est grâce à ta vigueur qu'ils ravagèrent Troie.
Pour cela, je veux avec toi leur faire du mal.
Ce que tu décides, j'y suis prêt. Tu feras quoi?
Je veux les frapper d'un retour qui soit un retour de malheur.
Et de fait, Poséidon fracassera avec son trident le rocher où pendant son retour en Grèce s'était réfugié cet Ajax violeur. Poséidon le précipitera dans la mer pour toujours. Une tempête effroyable dispersera la flotte des Grecs. Beaucoup périront. Même Ulysse, qu'Athéna chérit pourtant beaucoup, qu'elle n'a cessé de protéger à Troie. Elle l'abandonnera pendant de longues années d'errance et d'exil, 7 années, avant de se soucier à nouveau de lui et de l'aider à retrouver son île. Une Athéna très humaine, dans ses affects, ses impatiences, ses échecs, et totalement divine dans la force de ses réactions. Nous avons vu 3 visages d'Athéna. Le visage austère, glorieux et triomphant de l'Athéna des images, qui se multipliait à l'infini dans les temples, sur les vases, les monnaies, en statues. Le visage ensoleillé d'une déesse qui prenait un bain de midi avec des nymphes, visage lumineux qui devait rester caché aux humains. Enfin, le visage décidé, préoccupé et souvent hargneux, terrifiant d'une déesse en action. Cette déesse trouvait souvent les chemins du succès, mais elle devait apprendre l'échec, l'impuissance face à son père Zeus, face à la bestialité des humains quand ils se déchaînent. Quelle est l'Athéna réelle, la vraie? Les trois à la fois. Ces visages ne se ressemblent pas, ils ne coïncident pas. Mais aucun séparément ne représente la vraie Athéna. Ces visages coexistent. La vraie Athéna est le passage incessant, toujours renouvelé, de l'un à l'autre. L'Athéna au bain, belle et lointaine, invisible, intouchable. L'Athéna visible des images publiques qu'on voyait tous les jours, triomphante, souveraine. Et l'Athéna des grands récits racontés par un aveugle, Homère. Une Athéna qui affrontait l'histoire et qui devait aussi la subir, impuissante, dépassée. Multiple, changeante. Athéna aux trois visages permettait aux humains de comprendre, d'explorer les incertitudes, les complexités de leur vie.
Judith Pérez, professeure de littérature.
Ce qui caractérise ces dieux d'Homère, c'est que ils sont très humains finalement. Si ce n'est qu'ils sont immortels et qu'eux rient souvent alors que les humains ont plutôt tendance à pleurer, ils ont les mêmes défauts, les mêmes pulsions, les mêmes colères, les mêmes mesquineries que les humains. Et il n'y a jamais dans cet univers de l'Iliade cet arrière-fond destinal que vous trouvez dans la Genèse, enfin dans la Bible en général. Au fond, il y a une intervention des dieux, c'est vrai. Il y a même des interventions contraires, puisqu'il y a des divinités qui soutiennent Troie et des divinités qui soutiennent les Grecs, mais ils ne pèsent pas perpétuellement sur la conscience des hommes. Et d'ailleurs, le terme de conscience n'est certainement pas un terme bien choisi pour le monde homérique. En sorte qu'on a une espèce de réduplication du monde humain à un niveau supérieur, mais on n'a pas un univers divin pesant.
Les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de la Combe.
Vous retrouverez toutes les références bibliographiques de cet épisode sur le site de France Inter. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechen. La programmation musicale est de Thierry Dupin. Bonne journée sur France Inter.